L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Magazine qui vous fait déguster tout le sel du Finistère, un sel fin avec des vrais gens dedans et beaucoup d'associations, vous le savez. Et aujourd'hui, c'est une association qui siège à Quimper, qui intervient dans tout le Finistère autour des questions de solidarité internationale, de citoyenneté, de justice sociale et environnementale. Vous la connaissez bien parce qu'elle vient depuis plusieurs années, cette association qui sait aussi capter l'air du temps et les enjeux les plus urgents, puisqu'elle intervient essentiellement auprès d'un jeune public et surtout des collégiens ou des lycéens. C'est le CICODES qui nous aide à comprendre la complexité du monde. Parmi les enjeux complexes du moment, il y a l'information et nos rapports avec les médias numériques de plus en plus délicats. Certaines et certains refusent carrément de s'informer parce que c'est trop angoissant. D'autres personnes s'orientent vers des sources douteuses d'informations qui sont vendues à des causes mercantiles ou bien mensongères, voire complotistes ou haineuses, et ou haineuses d'ailleurs. Arka Argualies, l'une des animatrices du CICODES, va nous aider à mesurer tout ça et à trouver de nouveaux moyens d'éduquer aux médias et à l'information. Bonjour Arka.
Bonjour.
Alors les constats du CICODES justement, puisque vous travaillez beaucoup avec des jeunes, quels sont leurs rapports avec les médias numériques en général, voire avec l'information s'y intéresse déjà?
Et oui, et donc nous, le CICODES intervient dans les collèges et les lycées, donc dans tout le Finistère. Et ce qu'on peut observer depuis donc déjà les quelques années, il y a énormément de préoccupations par rapport aux jeunes aux questions de vivre ensemble en ligne, donc plus précisément sur les questions de cyberharcèlement. On a aussi des questionnements sur l'information, sur comment bien comprendre, avoir et recevoir de l'information fiable, comment faire face à de l'information, la vérifier. Et ce qu'on voit auprès des préoccupations sur les jeunes, c'est qu'ils ont beaucoup d'usages. On va avoir des usages donc, dès la sixième sur certains enfants qui vont avoir donc, libre cours, donc un téléphone, un smartphone, et d'autres pas du tout.
Donc, il y en a encore des enfants qui n'ont pas de smartphone en sixième.
Oui.
C'est rassurant.
Oui, donc on se retrouve souvent à la sixième, on a des enfants qui découvrent Internet ou qui découvrent le smartphone, donc des usages très très divers. Et ensuite, plus on avance au collège et au lycée, on va avoir vraiment l'utilisation quotidienne, voire jusqu'au coucher du téléphone, du smartphone. Donc.
Et est-ce qu'on sait quelque chose de l'éducation de la part des parents dans l'éducation, justement? Est-ce que les parents sont finalement suffisamment compétents et outillés pour éduquer les plus jeunes à tout ça?
Eh bien, Facebook a 20 ans. Et c'est encore jeune. En tant que parent, on apprend encore. Ce qu'on peut observer, c'est que les parents aussi doivent avoir ces espaces d'apprentissage sur l'utilisation du numérique. Les encadrements juridiques arrivent depuis les dernières années. On questionne sur l'arrivée de la majorité numérique. On voit aussi des discussions auprès du gouvernement sur l'âge, la majorité numérique ou l'âge légal pour l'inscription sur les réseaux sociaux. À savoir que selon un sondage de l'IFPOP, on a les premières inscriptions, ou en moyenne, sur un réseau social chez les enfants, c'est 8 ans et demi.
Ah oui, c'est très tôt.
C'est très tôt.
8 ans et demi.
On peut avoir aussi, déjà, à peine, selon ce même sondage-là, 50% des parents, seulement 50% des parents, décideraient de la durée de la connexion des enfants.
Ah oui, sinon ils leur laissent libre cours, quoi.
Eh bien, on peut avoir des outils comme le contrôle parental, on peut avoir des chartes numériques, mais c'est encore des choses qui sont en cours et auxquelles on apprend, les familles apprennent aussi à comment on utilise les supports numériques et leur présence aussi au sein des familles.
Oui, comment la gérer, est-ce qu'on garde le smartphone à table ou pas, enfin, des questions très, très triviales finalement. Et ces jeunes, sinon ces enfants, est-ce qu'ils se posent quand même des questions malgré tout?
Tout à fait, on va voir, je vais parler d'un projet qui a été mené au collège plus tard, mais on voit des questionnements sur la présence des supports numériques. Donc quand je parle de supports numériques, je parle de tablettes, de téléphones, smartphones et encore d'ordinateurs. La présence dans nos interactions sociales, la présence, la vie en ligne, la vie réelle. On voit aussi des questionnements sur l'image, l'estime de soi.
Oui, parce qu'on a vu surgir des questions de santé mentale aussi, enfin de santé psychique.
Bien sûr, bien sûr. Et aussi, avec qui on communique en ligne. On voit apparaître aussi sur l'utilisation, donc sur les réseaux sociaux, avec qui on communique. On voit aussi, on peut observer, donc selon une enquête menée par Génération Numérique, donc auprès de plus de 8000 jeunes âgés entre 11 et 18 ans, eh bien, il y a 29% des 11-14 ans qui ont déjà accepté un inconnu parmi leur liste d'amis ou qui ont communiqué avec un inconnu. Et c'est 65% chez les 11-18 ans.
Et ils sont exposés en plus à des contenus indésirables à cet âge-là, enfin dans cette enquête-là.
Oui, dans cette même enquête, on dénombre qu'il y a 33% des 11-18 ans qui disent avoir été exposés à des contenus choquants. Donc lorsqu'on parle de contenus choquants, c'est d'ordre de contenus violents ou encore de messages haineux ou encore à caractère pornographique.
D'accord. Donc, on voit qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour tous les pédagogues, les formateurs et formatrices, comme le CICODES, par exemple. Les demandes qui sont faites au CICODES, elles portent sur quoi, en général, les demandes d'ateliers ?
Donc, nos interventions ou nos ateliers qu'on va mener vont aider aussi à développer cette citoyenneté en ligne. Donc, lorsqu'on parle de vivre ensemble,
oui,
on parle
ça.
De qu'est-ce qu'être citoyen au jour le jour, mais aussi qu'est-ce que c'est la citoyenneté en ligne. On essaie d'aider au développement de cet esprit critique-là et comment on peut identifier certains comportements à risque ou encore prévenir sur les cyberviolences auxquelles les enfants peuvent être exposés.
Donc ça, c'est beaucoup d'ateliers que vous faites. Et vous faites d'autres, je sais pas, comment s'informer ou
Oui, on va donc dans les ateliers, on va toujours avoir donc des ateliers très participatifs, donc qui viennent de l'école d'éducation populaire, et on va aussi chercher donc que ce soit par des mises en situation, on va utiliser différents outils pédagogiques qui vont permettre de faire émerger les représentations, nos connaissances aussi, et ensuite essayer de voir quelles sont les ressources et les outils qu'on peut faire pour de la prévention ou lorsqu'il y a un moment, comment intervenir en cas de si on est victime ou si on est témoin d'une situation de violence, par exemple.
Alors, on va prendre des cas concrets, puisque au printemps, le CICODES a travaillé avec les sixièmes du collège Henri Lemoy, la Plozévette. Alors, en quoi consistait l'intervention du CICODES ?
Donc, ce projet s'est inscrit dans le cadre du dispositif TNE, donc Territoire Numérique Éducatif, qui est porté par donc, les acteurs du territoire. Et ici, dans le cas, c'était la communauté de communes du Haut-Pays Bigoudin, qui a fait appel au CICODES pour un projet autour donc des usages numériques des jeunes, dans l'objectif de créer, à l'issue de 5 séances, de faire une séance de restitution, d'échange avec les parents et les familles.
Ah oui, il fallait aussi éduquer les familles, d'accord.
Oui, nous avons, avec les élèves, on a pensé, on a co-créé des outils pédagogiques qui favoriseraient la discussion, bien sûr, les échanges avec les parents. Donc, c'était sur 5 semaines, donc 5 ateliers d'une heure et demie, avec une vingtaine d'élèves de la classe de la 6e C, avec lesquels, justement, on s'est rendu compte d'usages vraiment diversifiés des élèves. Donc, pour certains élèves n'avaient pas de portable, d'autres, si. Si on regarde le nombre de supports numériques à la maison, certains sont allés jusqu'à 12, ont identifié 12 supports numériques à la maison. Là, on compte les téléphones portables qui ne fonctionnent plus aussi.
Oui, oui, tout.
Certains élèves qui disent qui ont un temps restreint, que les parents savent absolument tout ce qu'ils font sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Et d'autres aussi qui ont valorisé l'utilisation du numérique comme les jeux vidéo en ligne, que c'est des espaces de moments d'échange avec leurs parents et qu'ils ont ces discussions-là autour des jeux. Et c'était fabuleux parce qu'on pouvait vraiment, là c'était un échantillon génial sur la diversité des pratiques qu'on peut avoir et de connaissances aussi.
Oui, de compétences. Alors qu'est-ce que ça a donné ce travail des collégiens de Plozévette ?
Eh bien, donc dans un premier temps, l'objectif c'était de repérer quelles étaient les thématiques que ces jeunes souhaitaient travailler. Quelles sont les préoccupations, les questions qu'ils pouvaient avoir sur le numérique. Et donc à l'aide d'un premier temps de recueil de ces représentations, on a eu des jeux de positionnement ou encore l'utilisation d'un photolangage, on a pu cibler 3 thématiques que ces élèves voulaient parler. C'était sur l'exposition aux images choquantes, violentes, à caractère pornographique, comme on en a parlé tout à l'heure, le cyberharcèlement Et bon, il y avait, à l'exception, il y a eu sur la question des usages en vie réelle, vie virtuelle, comment on passe du temps ensemble avec les amis ou la famille. Et certains aussi, il y en avait quelques-uns qui s'intéressaient sur la question des fausses informations, les fake news.
Ah oui, bah, c'est vrai qu'en sixième, ils sont encore un petit peu jeunes pour être vraiment branchés à actualité, mais bon, il y en avait quand même.
Et donc, pour nous, un des défis, c'était déjà de poser les bases des connaissances dès la première séance, de vraiment comprendre c'est quoi Internet, qu'est-ce que c'est un réseau social, un moteur de recherche ou un navigateur, et ensuite de comprendre, donc, lorsqu'on est capable d'identifier un réseau social, comment on peut distinguer, de voir qu'on en utilise un panoplie de réseaux sociaux, même en tant qu'élève, on va les utiliser. Et ensuite de voir, donc on a testé différents outils pédagogiques les séances suivantes. On avait des albums jeunesse présentés. Ils ont aussi exploré soit des jeux de plateau, donc qui permettaient d'aborder ces questions-là. Et au fur et à mesure des semaines, on a aussi ciblé, on a gardé en tête qu'est-ce qu'on veut transmettre comme message à ses pairs, comment on veut engager la discussion avec les parents. Donc les élèves ont co-créé des outils pédagogiques destinés à cette soirée de restitution. Et ils ont aussi travaillé sur des affiches pour que faire si on est victime ou témoin de cyberharcèlement. Donc, aller chercher vraiment les ressources. Ils ont été sur Internet voir des différents sites comme l'association E-Enfance ou encore le site premièrefois.fr qui est créé par l'association En Avant Toutes, qui sert à informer et accompagner les parents, les enfants sur la vie en ligne ou encore sur les relations sociales. Et donc, c'était important aussi pour nous de mettre les mots sur les choses. Donc, lorsqu'on va parler de, par exemple, de violence, on va essayer d'expliquer aussi que chacun a des sensibilités différentes. Lorsqu'on va parler d'exposition à certains contenus, lorsqu'on parle de pornographie, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Donc, c'était important pour nous de mettre des mots sur les choses parce que ça permet par la suite de mieux prévenir et d'intervenir à ce moment-là.
Et donc, les enfants ont fait deux posters, c'est ça? Donc, un sur le cyberharcèlement, c'est ça?
Oui.
Alors, qu'est-ce qu'il y avait dessus, par exemple?
Alors, pour eux, c'était donc sur l'affiche sur le cyberharcèlement, c'est qu'est-ce que je fais si je suis témoin? Comment faire pour aider la victime? Donc, ils ont trouvé des astuces comme signaler à un adulte de confiance, signaler la publication sur un réseau social ou la plateforme, aller voir sur premièrefois.fr qui nous permet de nous accompagner donc, sur ces questions-là, discuter avec la personne harcelée, donc ne pas laisser la victime toute seule, contacter eux enfance. Donc, on voit que c'est des réflexes qui sont déjà acquis ou développés dans les dernières années. On parle beaucoup d'harcèlement scolaire et du cyberharcèlement, mais c'est bien aussi qu'ils aient identifié ces conseils-là. Oui. Et si on est victime de harcèlement ou cyberharcèlement, eh bien, on peut bloquer la personne qui nous harcèle, on peut signaler sur le réseau social, on peut avoir un pseudo. Donc, aussi, vérifier sa vie en ligne, quelles informations on souhaite transmettre ou ne pas transmettre, en parler vraiment avec des adultes de confiance. Et pour certains aussi, c'est peut-être d'éviter de publier des photos de soi. Peut-être cacher son visage, utiliser des émojis, par exemple.
Par exemple. Et il y avait l'autre face du poster. Donc là, c'était comment s'informer. Ça m'intéresse particulièrement. Comment s'informer, alors?
Si on veut chercher des informations fiables pour réaliser un devoir, par exemple, eh bien, les jeunes ont identifié de vérifier d'où vient l'information, donc la source, se demander quel est l'intérêt de la personne ou du groupe à diffuser ces informations, se renseigner qui a créé l'information, et peut-être rechercher à croiser la source, donc trouver la même information dans d'autres sources dignes de confiance, comme ils ont identifié, et pourquoi pas demander à des adultes de confiance.
Oui, tant qu'à faire. Ils sont là pour ça. Et donc ça, c'est le résultat final du travail, mais il y a des outils qui ont été utilisés pendant les ateliers. Alors là, Arcargoulias, il y en a deux sur la table, c'est ça?
Oui, et peut-être je peux aussi préciser que les jeunes ont travaillé sur... Donc j'ai parlé d'affiches, mais ils ont aussi travaillé sur un jeu de positionnement
qu'ils ont fait vivre
aux parents, à savoir que... Donc, il y a eu une vingtaine d'élèves qui ont participé à ces ateliers-là et une vingtaine de parents qui se sont présentés. Donc, les enfants aussi. Et c'était une très belle soirée de restitution puisqu'ils ont travaillé sur un jeu de positionnement auquel ils ont demandé aux parents de prendre part, donc dans le non-jugement, bien sûr. Et c'était un peu des questions sur se positionner dans l'espace. Est-ce que c'est selon des catégories rarement, de temps en temps, souvent, trop souvent? Une première question: à quelle fréquence regardez-vous les portables de vos enfants? Et là, bien sûr,
donc, les parents se déplaçaient. Donc,
oui, les parents se déplaçaient et les enfants également. Donc, on pouvait avoir peut-être une certaine contradiction.
Ah oui, entre un enfant et son parent, le parent qui dit non, je ne regarde pas souvent, et puis l'enfant qui trouve que si.
Tout à fait. Par exemple. Avait ces espaces-là. Beaucoup de rire, pour un peu rire de soi-même et peut-être constater qu'on peut vivre aussi en tant que parent certaines choses similaires ou très différentes. Et de, aussi, cet espace-là, pour nous, c'était voir d'avoir une ouverture, de valoriser la présence justement des parents, de montrer que en tant que parents, on apprend encore tous les jours avec les enfants, que les enfants peuvent apprendre des choses à leurs parents aussi et que c'est important d'accompagner sans culpabiliser aussi. C'était des postures auxquelles le psychodèse on valorise, mais on a aussi essayé de transmettre aux jeunes pour ce moment-là. On a aussi demandé, par exemple, une question que les enfants, c'est vraiment les jeunes qui ont identifié ces questions à poser aux adultes, aux familles, c'était aussi, il vous arrive de scroller, donc de défiler, dérouler le contenu sur votre téléphone tout en regardant la télévision.
Mais oui, on voit ça souvent, en effet.
Tout à fait.
Incroyable.
Et donc, on constate, c'est vraiment aussi, c'est ça, les enfants qui questionnent en regardant les usages de leurs parents, leur modèle finalement, de voir, on peut bien faire des remarques sur eux, leurs usages, mais bon, en regardant leur modèle ou dans leur entourage, qui utilise des téléphones ou qui sont sur des tablettes, quels sont les moments qu'on partage ensemble? Est-ce qu'il y a des espaces où est-ce que, peut-être l'écran, le support numérique est absent? Est-ce que c'est à table? Est-ce que c'est dans la chambre? Est-ce que c'est à des moments où est-ce qu'on décide de ne pas faire? Et donc, bref, ces échanges-là ont permis aussi de proposer aux parents aussi de regarder d'autres, comment faire pour continuer, poursuivre ces discussions-là, ces réflexions, comment on met en place des nouvelles de choses à la maison. Si on souhaite mettre en place des pratiques différentes, eh bien peut-être est-ce que c'est regarder sur une charte d'utilisation familiale, sur les supports numériques comme Faminum, est-ce que c'est de regarder le contrôle parental et de discuter sur les modalités du contrôle parental. On peut regarder sur jeprotègemonenfant.gouv.fr. Est-ce que c'est de regarder, encore nous, on a proposé les ressources comme pédagogeux.fr, donc qui donnent énormément d'informations sur jeux vidéo en ligne ou les jeux vidéo les plus populaires et qui donnent des informations très pertinentes sur la signalétique PJ. Donc ça, c'est le Pan-European Game Information. C'est une signalétique qui donne des qui détermine, qui conseille un peu l'âge minimum requis pour chaque jeu, pour certains jeux. Et c'est tout à fait important de aussi préciser que chaque enfant, chaque personne a une sensibilité différente. Et donc, ce n'est que des conseils et on peut être plus ou moins sensible au contenu.
Oui, d'accord. Donc, tout le monde s'est retrouvé à l'issue de cette soirée bien doté d'outils, en tout cas, pour mieux faire, on va dire.
Oui, je pense que c'était un espace où est-ce qu'on a pu prendre du recul sur ces pratiques ou c'est l'usage numérique. On peut voir aussi ces besoins de créer d'espace de discussion et d'échange peut-être entre différentes familles et de voir la diversité aussi des pratiques.
Mmh. Et donc, vous avez ces jeux-là qui sont donc sur la table, qui vous servent, j'imagine, souvent au Psychodes. Alors, le premier, c'est quoi?
Donc, je vais présenter un des outils pédagogiques que les jeunes ont testé et auxquels ils se sont inspirés pour la soirée restitution. Donc, le premier, c'est l'éduc écran. Donc, c'est une co-création de École des parents et des éducateurs et l'édition Valorimis. L'objectif ici, c'est vraiment de réfléchir entre parents à la place des écrans dans les familles. Et quand on a des enfants, que faire? On peut réfléchir. Donc ici, c'est une proposition à faire à plusieurs personnes auxquelles on peut le faire en 3 séances. Donc, faire les constats, quelle place des écrans dans la famille. 2, dans un deuxième temps, est-ce qu'on peut mieux gérer les écrans au quotidien? Et dans un troisième temps, quelles sont les perspectives pour nos enfants et pour nous-mêmes? Donc c'est un support qui se dit ludique et de médiation, qui va regarder différentes thématiques. On va avoir des cartes ici sur les usages, l'autorité, l'apprentissage, les rythmes, la santé, l'autonomie. Avec des questions, par exemple, on peut avoir ici, auxquelles les participants vont être amenés à répondre, soit en faisant un tour de table ou encore en amenant des arguments pour ou contre. On peut avoir une question, par exemple, dormir avec le téléphone allumé toute la nuit, est-ce important pour vous?
Ah oui. Mm-hmm. Bonne question.
On peut avoir aussi, sur l'autonomie, avez-vous assez d'informations sur les impacts des écrans sur le développement de l'enfant selon son âge? On vous écoute. Donc on a ici une diversité de questions qui peuvent amener justement les parents à réfléchir sur, se questionner, est-ce que le rythme est adapté? Est-ce qu'on est sur l'autonomie? Comment on laisse nos enfants naviguer dans cet espace? Et quelles sont les barrières ou quelles sont certaines limites qu'on doit proposer?
Et donc c'est un jeu qui permet de discuter, on l'aura compris, mais il y a des réponses dans la boîte, enfin dans le jeu, on peut trouver des réponses ou des conseils au moins.
Ah ben sur des conseils, on va avoir ici plutôt comment on met en place. On est plutôt sur la mise en place, le questionnement de nos pratiques. On ne va pas avoir forcément des chiffres ou des données, mais on va plutôt aller regarder sur des retours d'expérience. On part du vécu des participants et des participantes.
D'accord. Et l'autre jeu, alors vraiment là on est sur l'info justement, l'information.
Oui, on est donc plutôt sur un escape game ici qui s'appelle 36 heures à la rédac, qui est donc escape game plutôt un jeu d'enquête, si je peux me permettre de trouver une traduction.
Ben, oui, c'est ça, les journalistes, c'est les enquêteurs.
Bien sûr. Et donc on arrive ici dans cet escape game là où on est à Bellemare-les-Fleurs et le petit Matteo, 10 ans, a disparu alors qu'il se rendait à l'école. En tant que reporter du Canard de Bellemare, on va devoir recueillir des informations pour couvrir l'événement, donc au JT, à 36 heures plus tard. Donc
ah oui.
C'est au journal de
13 heures. Ça va, on a 36 heures encore, c'est pas mal. Parfois, on a moins.
En effet. Ouais. Si on donne, comme on est apprenti reporter, c'est bien d'avoir un peu plus de temps alloué pour couvrir l'information. Et donc, l'objectif est de chercher, en tant que journaliste, d'aller rechercher de l'information. On ne mène pas une enquête, on n'est pas à la recherche de preuves. Donc, des choix d'aller interviewer des personnes, aller regarder pour de l'information dans des lieux, sont proposés, donc à l'aide de recherches d'indices. Et à chaque action, un certain temps est attribué. Donc, on avance au fil du temps. Donc, au bout des 36 heures, il faudra couvrir les informations. Attention, il y a des pièges, bien sûr. On voit à l'arrivée, au moment où on va diffuser le reportage, eh bien, est-ce qu'on a suivi les règles de déontologie donc, des journalistes ou est-ce qu'il est possible qu'on a, enfin, on a fait des erreurs et qu'il y a eu des rumeurs qui ont été propagées ou non-respect de la vie privée des personnes. Et donc, à la fin du manuel, on retrouve justement la charte de Munich, donc sur une déclaration des devoirs et des droits des journalistes, qui nous explique qu'en tant que journaliste, on doit respecter la vérité, doit défendre la liberté de l'information. On ne doit pas publier des informations dont on ne connaît pas l'origine. On doit aussi ne pas utiliser des méthodes déloyales et respecter la vie privée des personnes. Ce sont des exemples des différents devoirs des journalistes ou encore des droits. Et on explique à la fin que dit la loi par rapport à la liberté de presse ou encore l'expression des journalistes ou sur la diffamation ou la protection de la vie privée. Donc c'est un super outil pédagogique qui nous permet, un, de mieux comprendre et saisir sur la production d'informations, comment on diffuse l'information et les intentions et l'éthique du métier de journaliste.
Qui a édité le jeu et à partir de quel âge est-ce qu'on peut y jouer?
Donc ici, on est plutôt sur un jeu qu'on conseille pour les 9 ans et plus, donc qui se joue à 2 à 9 joueurs. On est ici sur donc, les éditions La Poule qui pond et Albert, le petit journal illustré.
Et ces deux jeux dont on vient de parler, ils sont, on peut les emprunter à la médiathèque du CICODES, dont on n'a pas parlé depuis longtemps.
Oui, donc le centre de ressources et documentation du CICODES regroupe des centaines d'albums jeunesse, livres, essais et outils pédagogiques auxquels toute personne qui est adhérente ou encore structure peut emprunter ces ressources.
Et vous en avez d'autres, j'imagine, sur tout ce qui est la question de l'information et des médias?
Ah oui, bien sûr. Oui. On a une panoplie d'outils pédagogiques et qui vont aussi couvrir, on n'en a pas mentionné, mais aussi toute l'empreinte numérique. Donc sur
l'aspect écologique.
Oui.
Ah oui, toute l'énergie qu'on consomme, l'eau. Parce qu'il ne faut pas croire, hein, quand on va sur l'ordinateur, on sort de chez soi sans le savoir. C'est ça.
Tout à fait. Ou encore l'empreinte numérique des smartphones. De comprendre, on a un outil pédagogique qu'on va mener aussi auprès de lycéens sur la production du smartphone. Et donc là, on parle vraiment de l'extraction des ressources naturelles.
Et oui. Et alors, on parlait d'information, enfin d'éducation à l'information des enfants, mais le CICODES propose aussi de former des professionnels, c'est ça?
Oui, on va avoir des formations qui vont avoir lieu donc, dans le cadre des formations par la SDJES, mais aussi le CICODES a participé à la semaine de l'EMI, donc par la ville de Quimper.
Éducation aux médias et à l'information, EMI.
Oui, merci pour cette précision. Et donc ici, on accompagne les animateurs, animatrices dans comment développer des projets pédagogiques autour de l'éducation du numérique avec la diversité des thématiques qu'on va aborder, que ce soit aussi sur l'utilisation des réseaux sociaux, sur travail sur l'estime de soi ou sur les questions de la citoyenneté en ligne, comment on va pouvoir aussi créer une séquence d'animation et aussi des animations qui sont adaptées selon l'âge. C'est un peu les objectifs que ici le CICODES va avoir auprès des professionnels de l'animation. C'est aussi de cibler des animations avec des finalités ou des objectifs pédagogiques adaptés au groupe d'âge.
Donc c'est des formations qui durent combien de temps, c'est celle-ci
Dans le cadre de la semaine de l'EMI à Quimper, c'était deux formations sur des après-midi qui ont été proposées à des animateurs et animatrices. Sinon, il y a des autres formations auxquelles on va travailler sur donc, de l'image aux écrans, une formation qu'on a faite il y a quelques semaines, c'est des formations d'une journée.
Oui, c'est ça. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Arka Gouelies. On retrouvera sans doute le CICODES la saison prochaine, dans l'EM ou ailleurs, en tout cas sur l'antenne de Transistor. Et on peut réécouter toutes les autres interventions sur le site internet. Merci.
Merci.